16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont un lien particulier avec la Tour Eiffel. Je crois qu'on peut dire que ni François Reichelt ou Franz Reichelt, ni Gustave Eiffel lui-même n'ont eu un lieu aussi intime que notre troisième personnage du jour, Mathieu, parce que Erika Eiffel, comme son nom l'indique, s'est carrément mariée avec la Tour Eiffel. Hein. Pour l'occasion, votre portrait, là, on va pas mégoter, ça sera 100% vrai. Hein.
100% vrai, oui Stéphane, c'est la nature même de l'histoire que je vais vous raconter qui m'empêche aujourd'hui d'introduire 1% de faux. Vous allez voir, comme tout a l'air faux et que tout est pourtant vrai, je ne vais pas prendre le risque de vous induire en erreur. Direction donc la Tour Eiffel. Symbole de notre capitale, emblème mondial du romantisme, au pied de laquelle chaque jour, hors pandémie, et des couples de touristes majoritairement chinois se font photographier en tenue de gala, cliché qui sera plus tard imprimé en sépia et placé dans un cadre Ikea sur un buffet en pain quelque part dans la banlieue de Shanghai. Vibrant témoignage d'un voyage de noces magique. En quoi se faire photographier dans une robe pronuptia qui menace à chaque instant de traîner dans une déjection canine ou du vomi de gilet jaune entre deux cahutes à crêpes et trois vendeurs à la sauvette de porte-clés Tour Eiffel Beat est-il magique? Reste un mystère auquel, un jour, il faudra que les touristes chinois apportent une réponse. En attendant, si vous trouviez déjà too much ces couples de touristes qui se marient devant la Tour Eiffel, préparez-vous à réviser votre définition du too much. Je vous présente Erika Labrie, plus connue sous le nom d'Erika Eiffel, plus connue donc encore comme la meuf qui a épousé la Tour Eiffel. À votre mine stupéfaite, je sais ce que vous dites Stéphane. Comment peut-on en arriver à épouser la Tour Eiffel? Pour se marier à une tour, il faut être...
rond comme une queue de pelle.
Oui, ou objectophile. Être objectophile, c'est ressentir une attirance pour un objet, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle. C'est très sérieux. Prenez ce micro, par exemple, Stéphane. Je suis sûr que vous n'avez jamais pris la peine de le regarder. Mais regardez-le, sentez-le, humez-le. On dit que l'amour est souvent là sous notre nez. Alors ne soyons pas bêtement puritains. Osons nous poser la question, Stéphane.
Est-ce que ça nous excite?
Vous, oui, à l'évidence. Moi, ça ne me fait rien. L'important, c'est que ça existe. Un spécialiste de l'objectophilie explique « Lorsque les gens sont privés de connexion avec d'autres êtres humains, attention, on pense au Covid, ils créent des connexions avec des non-humains par le biais de l'anthropomorphisme. » On comprend pourquoi, avec le confinement et l'interdiction désormais de déjeuner avec ses collègues à la cantine, certains êtres jadis normaux basculent dans l'objectophilie.
Ce qui est sexy, c'est le cordon bleu.
Attention Stéphane, on ne croque pas sans le consentement du cordon bleu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. À la faveur des confinements, qui n'a pas commencé à regarder bizarrement sa multiprise? Qui n'a pas eu un moment de rapprochement coupable avec son grille-pain? Les experts nous le disent, avec l'objectophilie, les sentiments d'amour, d'attirance, d'excitation et d'engagement sont concentrés sur un objet particulier. Et la simple idée d'une relation avec un véritable humain paraît grotesque. Si ça se trouve, c'est pas eux qui sont fous Stéphane, c'est nous. Alors la prochaine fois que vous aurez une aventure avec votre imprimante, vivez-la à fond, sans tabou, sans retenue, à fond jusqu'au bourrage papier. Oh oui! Oh, ma petite Samsung LP430 FXWZ. Tu permets que je t'appelle LP? Tu m'excites. Ah oui, plus bas que... Oh, je vais venir. Oh, il n'y a plus de tonnerre. C'est la troisième fois que tu me fais le coup de la panne. Mais je sens qu'à trop vouloir comprendre l'objectophilie, on perd de vue Erika et c'est dommage. Erika est américaine. Elle est née en 72 dans le Maryland. Elle a grandi dans des familles d'accueil, a été abusée par son demi-frère et s'est très tôt intéressée aux arts martiaux. Très vite aussi, elle développe une attirance pour divers objets avec qui elle construit ce qu'on peut qualifier de relation. Erika raconte par exemple qu'à 14 ans, elle était déjà très amoureuse d'un pont de sa ville natale. Oui Stéphane, un pont. Ça pose d'ailleurs des questions sur le plan juridique. Un vieux pont peut-il sortir avec une jeune fille de 14 ans? Ou bien y a-t-il détournement de mineurs comme avec un vieux con? Dans ce cas précis, la question ne se pose pas puisque le vieux pont a été plus raisonnable que Jean-Luc Lahaye. Il ne l'a pas touché. Après ses études, Erika suit une formation de météorologiste comme Evelyne Delia et de copilote sur avion de chasse F-15, pas comme Evelyne Delia. Avion de chasse avec lequel, vous l'imaginez, elle entretient un rapport amoureux. Sa carrière dans l'armée de l'air est hélas de courte durée car les cons étant plus nombreux que les ponts, elle y est victime de harcèlement sexuel. Elle s'exile alors au Japon, tout est vrai. Hein. Elle devient une experte en arts martiaux. Après une brève idylle qu'on peut légitimement qualifier de plan cul avec son épée d'entraînement, Erika rencontre ensuite l'amour en la personne d'un narc japonais. Coup de foudre réciproque puisque c'est avec ce nouveau partenaire qu'elle n'a jamais aucun mal à bander qu'elle va atteindre les sommets du tir à l'arc international. Oui, c'est une championne de tir à l'arc, Erika. Le couple ira de compétition en compétition. Elle lui a même donné un nom, Lance. Lance m'a attiré parce qu'il était très beau. Notre relation a été chaude et intense pendant pas mal de temps, raconte Erika encore émoustillée. Une question vous agite? Comment sait-elle si elle est aimée en retour? C'est très simple, nous explique Erika. La plupart des objectophiles ressentent les objets qu'ils aiment. Pour moi, la communication ne passe pas par la parole. Je capte les échanges d'énergie entre les objets dont je suis amoureuse et moi. En matière d'échange d'énergie, Erika ne va pas être déçue lors de sa première visite à Paris en 2004. Entre elle et la tour Eiffel, c'est le coup de foudre. Elle va revenir tous les ans pendant 4 ans. Elle câline ses piliers, rêve d'enrouler sa langue autour de ses antennes et de se frotter lascivement à ses boulons d'ancrage. Comment résister à plus de 300 mètres de fer pudelé ? Justement, elle ne résiste pas et le 8 avril 2007, elle épouse la tour lors d'une cérémonie privée entourée de quelques amis. Avec mes proches, nous nous sommes réunis au deuxième étage. Un ami a lu mes vœux en français, puis j'ai récité un poème à la tour. C'était très émouvant de lui offrir mon cœur. Nous avons une connexion spéciale. Spéciale comme leur mariage, qui n'a aucune valeur juridique, évidemment. Aucun papier officiel n'a été signé. Pourtant, Erika a fait toutes les démarches pour porter le nom de sa moitié. Maintenant, c'est le nom qui est inscrit sur mon passeport et mon permis de conduire. La procédure est compliquée, ça m'a pris beaucoup de temps et coûté plusieurs centaines de dollars. Mais quand on aime, on ne compte pas. La voilà donc, Erika Eiffel. La suite de ses confidences est aussi dérangeante qu'un vie privée, vie publique avec José Dayan. Je cite « La tour Eiffel m'a permis de retrouver mon équilibre. Malgré le froid du métal, l'embrasser me réchauffe à l'intérieur. » Ok. Même si on ne veut pas forcément visualiser plus, on s'interroge « Comment tu vis une histoire d'amour avec un monument public ?» Eh bien, Erika nous l'explique. Quand elle lui rend visite, elle profite d'une poutrelle un peu à l'écart. Elle l'enfourche, je cite, « la frotte délicatement entre ses jambes tout en embrassant le métal glacé. » Est-elle seulement vaccinée contre le tétanos ? Mes aïeux, quelle histoire ! Je vous sens choqué, c'est normal ! Autour de cette table, à part David, personne n'a évidemment jamais essayé de s'accoupler avec la tour Eiffel en se frottant contre son pilier sud.
Bam, hein, c'est pas mal, hein ?
C'est David ! David, non. Bref, au-delà d'un acte d'amour, si Erika se frotte contre la tour Eiffel, c'est également un acte politique. En effet, de même que certains se battent pour faire reconnaître l'intolérance aux ondes comme une vraie pathologie, Erika, elle, se bat pour faire reconnaître la réalité de l'objectophilie. Elle a même créé un site internet pour partager et libérer la parole des gens comme elle. On peut y lire des témoignages émouvants, parmi lesquels celui d'Olivier P. de Paris, qui depuis 10 ans vit une aventure torride avec une carafe à décanter, et qui a peur d'être trahi par son état. Sa femme pense que c'est du calcaire, mais c'est pas du calcaire. Coquinou. Bon, le site internet ne croule pas sous les visites, mais l'histoire d'Erika attise la curiosité des médias. La chaîne britannique Channel 5 lui a consacré un documentaire qui, hélas, ne sera pas du goût d'Erika, qui lui reprochera d'avoir, je cite, « distillé de fausses idées selon lesquelles les personnes atteintes d'objectophilie le sont en raison de facteurs annexes tels que la maltraitance et la maladie mentale ». Non, tu crois ? Pire, sa relation avec la tour Eiffel bat de l'aile. En effet, le personnel de la tour... Entre le personnel de la tour qui la reconnaît et l'empêche de se frotter et les mesures de sécurité qui s'intensifient d'année en année, pas facile de se caresser le boulon. En 2009, c'est la rupture. Les relations à distance, c'est pas simple. Et puis Erika l'avoue, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et pour lui, elle va quitter la Californie et s'installer en Allemagne. Car oui, Stéphane, Erika va vivre une relation avec le mur de Berlin.
Ah, c'est sympa ça aussi.
Oui, et chez les objectophiles aussi, l'amour n'a qu'un temps. Et aujourd'hui, Erika ne vit plus en Allemagne car elle est retombée profondément amoureuse d'une grue. Pour elle, elle a même changé une nouvelle fois de métier en devenant, oui, grutière. Je pensais que je ne retomberais plus jamais amoureuse, mais en tant que grutière, je suis connectée à mon amour. J'ai l'impression que les bâtiments que nous créons ensemble sont presque comme des enfants. Ouais, je sais pas vous, mais moi je regarderai plus jamais un objet de la même façon. Rien que demain matin au petit-déj, je sais pas si j'oserais introduire des toasts dans mon grille-pain. Je crois que j'aurais l'impression de tromper ma femme. Est-ce que toaster, c'est tromper ?
Non, Mathieu.
Non, mais vous êtes un libertin. Rien n'est jamais trompé. Mais je demanderai plutôt à Erika.
Merci, Mathieu. Mais elle va bien, sinon,
votre Écoutez, je crois Erika... qu'elle est à peu près... psychologiquement, je pense qu'elle est au niveau de Franz Reichel, si vous voulez. Je pense qu'elle est à peu près au même niveau.
Oui.
C'est terrifiant parce que tout est vrai. À part
c'est
le fait
horrible,
que David s'est frotté à la tour Eiffel, évidemment.
Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.